France Inter.
C'est l'heure du journal avec vous, Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, l'Élysée valide la copie. Il y a du courage, de l'audace, de la lucidité dans ce budget, dit Emmanuel Macron. Au lendemain de la présentation des grandes orientations budgétaires souhaitées par François Bayrou, et alors que les oppositions se donnent pour principale mission de tout revoir d'ici à l'automne, la droite, pas si sévère, vous l'entendrez. L'actualité, c'est aussi cette marche de soutien à Avignon pour le journaliste sportif Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie. Nous serons à Marseille, où une pluie d'amandes rend fou les habitants d'une résidence privée. À Toulouse, pour la reprise du Tour de France, aujourd'hui le maillot jaune sur les épaules de Ben Hilly. Et puis Kevin Mayer ne reprendra pas la compétition cette année. Année blanche pour le recordman du décathlon. Vous l'entendrez juste avant la météo complète d'Élodie Calac. Attention encore au risque d'incendie dans le sud. Au lendemain de la présentation des grandes lignes du projet de budget souhaité par François Bayrou, première copie que les oppositions souhaitent largement réécrire d'ici à l'automne, les services de Bercy donnent les détails. Ce matin, des efforts réclamés à chaque mission de l'État, éducation, environnement, sécurité. Le gouvernement estime que l'État aurait dû dépenser 60 milliards d'euros de plus l'année prochaine. Ça ne devra pas dépasser 29 milliards. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Qui fera donc le plus d'efforts?
Alors, ce sont essentiellement les secteurs de la solidarité et du travail. 1,7 milliard d'euros en moins pour la mission insertion égalité des chances. C'est là où les efforts demandés sont les plus conséquents. 1,3 milliard en moins pour le travail, l'emploi. Au moment même où l'État dit vouloir favoriser l'embauche des jeunes et des seniors. De nouvelles annonces sont d'ailleurs attendues ce soir à l'issue du Comité national pour l'emploi. Diète également pour le sport, la jeunesse, la vie associative. 900 millions en moins pour la cohésion des territoires, dont le très sensible secteur du logement, 700 millions en moins pour l'aide publique au développement, 200 millions en moins pour l'agriculture et l'alimentation et même potion amère pour la culture.
Et quel ministère, quelles missions sont épargnées?
Eh bien, ce sont les fonctions régaliennes de l'État qui sont préservées. En premier lieu, la défense qui, en cette période de tensions internationales, va bénéficier d'une rallonge inédite, une enveloppe supplémentaire de 6,7 milliards d'euros destinée à un surcroît d'investissement et de commandes de matériel. Une enveloppe également de 400 millions pour les sécurités, la protection des Français justifie des hausses d'effectifs, écrit le gouvernement. Il s'agit aussi de financer les instruments de régulation de la politique migratoire. Une rallonge aussi de 200 millions pour la justice afin de poursuivre notamment la construction de prisons de haute sécurité. 200 millions pour l'éducation nationale auxquels s'ajoutent 300 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche. Mais une augmentation qui ne compense pas l'inflation, dénonce à la mi-journée le président de la commission des finances, Éric Coquerel. Enfin, 600 millions d'euros pour la mission écologie, développement et mobilité durable, dont le périmètre est amené à évoluer l'an prochain.
Le message global est celui d'un État qui se serre la ceinture, même si le RN dénonce un manque de réformes structurelles. L'addition encore plus douloureuse pour les travailleurs modestes, à qui l'on demande de travailler plus sans gagner plus, ceux qui entreront dans l'impôt l'année prochaine en raison de l'année blanche, les retraités aussi, dont une partie devra faire une croix sur l'abattement forfaitaire de 10%, et puis les malades, que le gouvernement veut dégager quelques 5,5 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de santé, les arrêts maladie, la prise en charge des maladies chroniques et le remboursement des médicaments. Bonjour Grégoire Le Callot.
Bonjour.
Les associations de patients sont très inquiètes.
Oui, il y a 29 maladies qui ouvrent automatiquement droit à une ALD, une affection de longue durée. Et celle qui arrive en tête, c'est le diabète avec 3,6 millions d'assurés qui en étaient atteints en 2022. Et compte tenu des paramètres de cette maladie, le docteur Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération des diabétiques, sera tout particulièrement attentif aux critères d'application des mesures annoncées.
On n'est pas guéri du diabète, on peut équilibrer du diabète et on est équilibré parce qu'on prend un traitement. Quand on est équilibré, on n'est pas guéri. Donc on va être très vigilant aux mesures concrètes qui sont effectivement prises parmi toutes celles qui ont été mises sur la table. Il faut avoir ce qui va sortir, mais il y a des choses qui pour nous sont des lignes rouges.
Alors, d'autres maladies hein, de la liste des ALD peuvent guérir, c'est le cas de certains cancers, mais avant de prononcer une guérison de cancer, il y a une longue période de rémission à traverser, durant laquelle la quantité de médicaments consommés par les patients baisse. Et Camille Flavigny de la Ligue contre le cancer estime que les annonces de François Bayrou sont à ce titre peu claires.
Ces annonces inquiètent fortement les personnes qu'on accompagne au quotidien à la Ligue. Le Premier ministre parle notamment, on entendait, de la question de l'absence de justification de consommation des soins pour une sortie du régime de l'ALD. Il faut faire attention, cette non-consommation de soins, elle ne veut pas forcément dire qu'on est dans un état stabilisé, elle peut aussi dire qu'on a du mal à accéder aux soins. Par ailleurs, la question de fixer une liste de soins spécifiques et opposables à chaque ALD, on se demande comment c'est possible dans le cadre du cancer, une innovation thérapeutique est très importante.
Elle juge aussi imprudent les mots utilisés par le Premier ministre, très durs à entendre pour des patients déjà atteints d'une maladie grave. Se voir désigné comme un poids pour la collectivité constitue une sorte de double peine psychologiquement difficile à gérer.
Merci beaucoup Grégoire Le Callos. Ce plan d'économie aux yeux d'Emmanuel Macron a la vertu du courage, de l'audace et de la lucidité. C'est le message qu'il a fait passer ce midi en Conseil des ministres. Et là où plusieurs économistes pointent le risque d'un coup de frein qui entraînerait une récession, le chef de l'État lui est persuadé que ce budget favorisera la croissance. Sera-t-il suivi par ce qu'on appelle le bloc central, les LR notamment, qui ont mis la pression ces derniers jours contre une année blanche, contre la contribution des retraités. Ce midi, en tout cas, bonjour Lise Roseveil.
Bonjour.
Laurent Wauquiez, le chef de file des députés LR, s'est affiché plus arrangeant.
Oui, pas question de partir au clash. Le patron des Républicains n'est pas là pour critiquer, mais pour faire des propositions.
Est-ce que ce plan est parfait ? Non. Eh bien, précisément, ce plan doit être corrigé et amélioré.
L'année blanche, qualifiée il y a encore deux semaines d'année rouge fiscale, pas un mot de Laurent Wauquiez. Et son collègue Philippe Juvin ne ferme plus la porte.
C'est un choix politique qui a été fait. A priori, pourquoi pas ?
Laurent Wauquiez juge quand même la note salée pour les Français, avec trop de hausses d'impôts et une réduction de l'abattement fiscal des retraités. Mais il use d'un euphémisme.
Ça fait pas partie des choses qu'on aime. Après, on essaye d'être responsable. Dans la période actuelle, chacun va devoir faire un petit pas. Mais pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir des efforts qui sont demandés de façon aussi importante aux retraités et rien, par exemple, sur l'immigration. C'est pas possible.
Les Républicains avancent donc trois pistes : lutter contre la cistana, réduire les dépenses de l'immigration et ralentir le train de vie de l'État. Et si François Bayrou ne les prenait pas en compte, les Républicains remettraient-ils en cause leur participation au gouvernement ?
Je viens pas ici en agitant comme d'autres des épouvantails, en disant on va renverser ceci, on va tout faire tomber. C'est une époque où il faut que chacun fasse l'effort de se hisser à la hauteur des enjeux.
Posture de responsabilité jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il souhaite dans ce budget, quitte à lâcher sur des mesures portées jusque-là comme des lignes rouges.
Lise Roseveil depuis l'Assemblée nationale. Et puis un chiffre qui jouera sur l'épargne des Français. Aujourd'hui, on attend la confirmation du nouveau taux du livret A. Il devrait passer de 2,4 à 1,7%.
France Inter, le journal de 13h, Hélène Philippe.
Le Festival d'Avignon, lieu de théâtre et de liberté d'expression. C'est en partie pour cela que la famille du journaliste sportif Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie, avait appelé à une marche de soutien ce matin. Une centaine de personnalités, de l'actrice Catherine Deneuve à l'ancien coach des Bleus Hervé Renard, réclament désormais publiquement sa libération. Réunis dans un groupe de soutien initié par Reporters sans frontières, le frère de Christophe Glaise, Maxime, était présent ce matin à Avignon.
On ne s'attendait pas à ce que ça dure déjà un an et donc en plus d'avoir une condamnation de 7 ans de prison ferme pour rien en fait, pour juste parler de football, c'est dur. Donc c'est pour ça qu'on fait cette mobilisation parce que je fais du théâtre et je suis à Avignon cet été et je ne pouvais pas déjà rester les bras croisés. J'imagine que cette marche ne va pas déplacer les montagnes, mais c'est ma manière de mettre une petite pierre à l'édifice et de dire qu'on ne l'oublie pas. Et en fait, c'est insupportable. C'est-à-dire que moi, je suis à Avignon, il fait beau, je suis avec mes amis, tout va bien pour moi. Mais lui, il est en train de couprir, en train de cogiter dans une cellule. Et pour nous, c'est insupportable.
Le frère de Christophe Glaise, Maxime, au micro de Marie Bernardeau. À l'étranger, le bilan toujours plus lourd des violences à Souaïda. 248 morts depuis dimanche dans cette ville du sud de la Syrie. Israël dit renforcer ses troupes à la frontière. Tandis que dans la bande de Gaza, les distributions alimentaires sont toujours meurtrières. 20 morts ce matin dans une bousculade sur un site de la controversée fondation privée GHF. l'espoir d'un cessez-le-feu. Toujours hypothétique, ce midi, un haut responsable du Hamas dément toute avancée dans les négociations. Il y en aura pour tout le monde. Le patron du géant Nvidia ouvre grand sa production de puces graphiques au marché chinois, essentiel au développement de l'intelligence artificielle. L'administration américaine a finalement décidé de lever les restrictions malgré les tensions commerciales entre Washington et Pékin. Et l'annonce à peine faite, les entreprises chinoises se précipitent déjà pour passer commande. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Hélène.
Servir la Chine avec des technologies américaines, c'est une décision qui peut surprendre alors que, on le sait, les deux puissances se livrent une guerre sans merci dans la course à l'IA. Chacun y trouve tout de même un intérêt.
Oui, côté américain, Nvidia va pouvoir réinvestir le marché chinois. C'est quand même 13% de son chiffre d'affaires. Ne plus laisser le champ libre à ses concurrents chinois, galvanisés par l'embargo de Trump, notamment Huawei, qui vient de lancer la production de sa propre puce graphique concurrente. Jean-Dominique Séval, spécialiste de la tech chinoise.
Il y a beaucoup de concurrents chinois qui sont en train de rattraper leur retard. Ce moment arrive, approche de plus en plus, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Entre-temps, laisser toute la place sur le marché chinois aux entreprises chinoises sans livrer bataille et sans laisser à Nvidia la possibilité de défendre sa part de marché, ça semblait difficile.
Et puis, côté Pékin, cette levée de l'embargo, c'est une bouffée d'oxygène pour l'IA chinoise. Patrick Béja, spécialiste de l'industrie tech.
La différence entre pouvoir se fournir en puce aux États-Unis et ne pas pouvoir, oui, c'est un game changer. On a vu ces derniers mois certaines sociétés chinoises dire « Ah bah oui, en fait, ces restrictions, ça nous handicape. » Si sur la durée, il n'y avait pu avoir accès à aucune puce, évidemment, ça aurait été un énorme problème.
Ça change la donne. Ce matin, à Pékin, justement, le patron de Nvidia a salué l'innovation ultra rapide de la tech chinoise, qui devra néanmoins faire sans les puces les plus puissantes de Nvidia, celles de dernière génération, qui sont, elles, toujours sous restriction. Pour info, chacune de ces puces vaut 70 000 dollars.
Merci beaucoup Stéphane Jourdain. Tandis qu'en France, deux infos au rayon automobile. Stellantis ne croit plus à sa filière hydrogène et stoppe les investissements sur son projet de fabrication d'utilitaires à piles combustibles. En dépit de la co-entreprise spécialement créée avec Michelin et Forcia, décision brutale, jugent ses partenaires, qui mettent en danger l'avenir de l'usine lyonnaise ouverte en grande pompe il y a 2 ans. Renault fait grise mine ce matin, chute de plus de 15% en bourse après la nomination d'un nouveau patron par intérim en remplacement de Luca De Meo. Duncan Mito, c'est son nom, jusqu'ici directeur financier qui, dans ses premiers mots hier, a revu les objectifs du groupe à la baisse, immédiatement sanctionné par les marchés. On apprend à l'instant la mort de Loïc Le Floch Prigent, un grand capitaine d'industrie français, un breton, 81 ans, c'est sa famille qui l'a marqué aussi par sa condamnation dans l'affaire Elf. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Quand un policier inonde ses voisins de PV, à Marseille, 5 plaintes viennent d'être déposées par les habitants d'une résidence du 14e arrondissement, excédés de découvrir chaque matin, ou presque, une amende sur leur voiture, déposée en pleine nuit, à l'intérieur même de leur résidence privée, pour stationnement gênant. Le policier qui verbalise a toujours le même numéro de matricule, d'où le soupçon d'avoir affaire à un voisin et la colère des résidents, Fabien Ledu.
Oui, c'est bien simple. Comme à Lima...
C'est une horreur. C'est un enfer, quoi.
Les habitants de Cap Vista sont en pleine psychose.
J'arrive pas à dormir. J'entends une voiture, une moto, je sors pour voir que c'est pas lui qui me verbalise.
Car ce mystérieux policier verbalise tout ce qui bouge.
J'ai été verbalisé, par exemple, du 20 avril au 27 avril, chaque matin. Une amende par jour.
Une pluie de PV à 135 euros, comme celui que Kamel tient à la main.
Station gênante de véhicules devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain.
Des amendes dressées essentiellement de nuit.
Les amendes sont constamment mise entre minuit et 6h du matin.
Sur des voitures qui ne gênent pourtant pas le passage.
On n'est pas au milieu de la route, on bloque pas les accès à des issues de secours, on bloque pas l'accès à l'entrée de la résidence.
De quoi faire fuir les visiteurs de Mounia.
Mon frère a été verbalisé, ma soeur a été verbalisée, ma nièce a été verbalisée. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, 3-4 jours après, il m'appelle, Mounia, j'ai reçu une amende devant chez toi. C'est honteux.
Des amendes qui finissent par coûter cher aux habitants comme Dora.
Notre salaire part dedans. Avant-hier, j'ai eu une saisie de 900 euros encore.
5 plaintes ont été déposées pour tenter de faire cesser ce mystérieux policier.
Et la police des polices a ouvert une enquête, Fabien Ledu, ici Provence. L'évadé du sac de linge à Lyon, présenté à un juge aujourd'hui, tout comme son complice. Les deux hommes interpellés quelques jours seulement après l'évasion. Le premier dans la banlieue lyonnaise, le second à Marseille. Devrait-on vendre un bout de la planète rouge aux enchères? Le plus gros fragment de Mars, météorite retrouvé dans le Sahara il y a presque 2 ans, cherche preneur. Aujourd'hui à New York, mise à prix chez Sotheby's à 2 millions de dollars, alors que pour les scientifiques, Boris Allier, sa place serait davantage dans un musée.
Dans sa vidéo de présentation,
This is the largest piece of Mars.
La maison de vente aux enchères fait la promotion de cette roche de 24 kilos, la taille d'un gros ballon de football, et sa couleur ocre caractéristique de la planète Mars. Pourtant, prudence, ça ne prouve rien, selon Brigitte Zanda, spécialiste des météorites au Muséum national d'histoire naturelle.
Les météorites martiennes, elles sont grisâtres, blanchâtres, voire verdâtres. C'est pas parce qu'elles viennent de Mars qu'elles rougent.
Alors, ce fragment a bien été authentifié en laboratoire. Il fait désormais officiellement partie des 400 météorites martiennes retrouvées sur Terre. Pour le chasseur de météorites qui l'a déniché au milieu du désert du Niger, c'est le gros lot, selon la maison Sotheby's. Mais pour Brigitte Zanda, c'est avant tout un objet scientifique.
C'est comme les œuvres d'art. Il y en a qui sont vendues aux enchères. Mais ce qui est embêtant dans le cas des météorites, c'est que la première chose qu'on met en avant, c'est toujours leur valeur monétaire. Il y a une espèce d'effet waouh, je dirais. Or, pour nous, c'est quand même des objets de science. Et ce qui est important, c'est la science qu'on fait avec. Clairement, ces objets, ils ont leur place dans un musée.
Mais avec un prix de départ à près de 2 millions d'euros, pas sûr qu'un musée ait les moyens de se l'offrir.
Les scientifiques éblouis par des images inédites du Soleil, les plus proches jamais prises par la sonde Parker en décembre dernier, tout juste dévoilées par la NASA. Images d'éruptions de plasma qui s'empilent les unes aux autres, du vent solaire dans ses moindres détails. Précieuses informations pour mieux comprendre la météo spatiale qui peut perturber les satellites et même avoir des répercussions sur les réseaux électriques sur Terre. Et c'est sous un grand soleil que le Tour de France reprend la route. Aujourd'hui, 11e étape à Toulouse, tout autour de Toulouse. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour.
C'est la dernière étape avant les Pyrénées, Nicolas, et ça ne va pas être simple pour autant.
Oui, idéal en tout cas, pourrait-on penser à cette étape pour se remettre dans le bain après la journée de repos, simple sur le papier pour une reprise, mais nerveuse et sans doute très intense avant d'enclencher demain, effectivement, la grande bataille des Pyrénées, 156 km 800 très exactement, 5 petites difficultés, dont 4 dans le final, et d'ailleurs la plus dure, hein, celle dont tout le monde parle ce matin, c'est la côte de Puech-David qui sera située à 8 km seulement de l'arrivée. Ça va être compliqué donc a priori pour les sprinteurs dans ce final. C'est une étape que beaucoup de baroudeurs, de punchers ont coché. L'échappée va intéresser beaucoup de coureurs. En attendant, eh bien, c'est carte postale toulousaine sous un grand soleil, effectivement. La ville du rugby, le bouclier de Brennus était présent ce matin sur le village départ et les coureurs vont passer dans quelques minutes pendant leur défilé. Place du Capitole, là où tant de titres, évidemment, du stade toulousain ont été fêtés. Clin d'œil également en début d'étape à l'aéronautique avec un passage à Blagnac devant Airbus. A priori, donc en tout cas, ce n'est pas aujourd'hui que Tadej Pogacar devrait frapper fort et récupérer le maillot jaune sur les épaules, on le rappelle, de l'Irlandais Ben Healy depuis avant-hier.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet avec Geoffrey Marianne sur la route du Tour de France cycliste. La dernière image qu'on a de lui, c'était il y a un an, le 7 juillet, quand il s'écroule sur la piste du stade Charletti, abandonnant du même coup son rêve de consécration olympique. Kevin Mayer n'est toujours pas au mieux. Il confirme ce midi, le champion de décathlon, faire une croix sur la saison 2025. Il ne participera à aucune compétition jusqu'à la fin de l'année, mais il ne renonce pas non plus à revenir plus tard.
L'objectif, c'est de guérir. À partir du moment où j'aurai guéri, je sais que d'atteindre un bon niveau et d'être médaillable au JO, ce ne sera pas un problème. Ma problématique dans ma carrière, ça a toujours été la blessure, c'est la même. Ça prend plus de temps que d'habitude. C'est la première saison blanche, c'est la première année où je ne vais pas porter le maillot de l'équipe de France. C'est plein de choses comme ça. J'ai pris le parti vraiment de prendre le temps de guérir cette blessure. Et je n'ai pas de doute sur le fait que ça va guérir. J'ai eu des très grosses blessures dans ma carrière. C'est la plus grosse, donc ça va prendre plus de temps. Mais avec toute la motivation que j'ai pour refaire de l'athlète qui est ma passion et toute l'autodiscipline que j'ai, je pense que c'est qu'une question de temps. En fait.
L'athlète Kevin Mayer au micro de Grégoire Motte. Et c'est l'heure de faire un point sur le temps.
la météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Un peu de pluie au nord mais du soleil au sud.
Oui, il y a une perturbation qui ondule de la Normandie jusqu'au bassin parisien au Grand Est avec un ciel bien gris, quelques pluies, des éclaircies appréciables tout de même des Hauts-de-France aux Ardennes. Elles restent timides de la Bretagne au Jura. Le vent est sensible au nord, plus marqué d'ailleurs sur les Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace. Plus au sud, du soleil. Alors on n'est pas à l'abri quand même d'une petite averse sur les Alpes du Sud, sous les nuages les plus joufflus. Il y a du vent en Méditerranée, 60 à 80 km. Alors attention, le danger feu de forêt est très élevé sur Var, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Les températures sont timides sous les pluies, mais en hausse au sud. 20 à 25 degrés de la Manche au Grand Est, 24 à 27 sur le reste de la moitié nord, 28 à 32 en allant vers le sud, 32 d'ailleurs à Toulouse pour cette étape du Tour de France, jusqu'à 36 en Méditerranée, parfois un petit peu plus dans l'intérieur de la Provence. Et puis demain encore du soleil au sud. Au nord, pas mal de nuages le matin, mais ça s'éclaircira progressivement l'après-midi et on aura des températures en hausse partout.
Élodie Calac, Météo France.